Chapitre 16. J'ai pleuré pendant des heures et des heures. C'était comme une bombe en moi qu'on aurait tirée. Ou comme une purge. Ou comme une vidange. Pour la première fois depuis que j'étais née, je n'étais plus sur la défensive. Pour la première fois. Pour la première fois, je sentais qu'enfin ça y était. Qu'enfin, j'étais en sécurité. Et tout est sorti d'un coup. Tout. L'abandon, la faim, le froid, la saleté, les poux, mon odeur, les mégots, la crasse, les bouteilles vides, les cris, les baffes, les marques, la laideur de tout, les mauvaises notes, les mensonges, la violence, la peur, les vols, les parents de Jason Gibo qui m'interdisaient de chier chez eux, leur reste à finir, mon cul, mes nichons et ma bouche qui m'avaient tellement servi de monnaie d'échange ces derniers temps. Tous ces mecs qui avaient tellement profité de ma situation, et si mal, et tous ces boulots de merde. Et Manu qui m'avait fait croire qu'il m'aimait un peu, pour de vrai, et que je pourrais avoir ma maison à moi, et... Et j'ai tout dégobillé en larmes. Et plus je me vidais, plus Franck semblait se remplir. Je ne saurais pas l'expliquer vraiment, mais c'était l'impression qu'il me donnait. Plus je pleurais, plus il se détendait. Son visage devenait de plus en plus bonasse. Il me tortillait une mèche de cheveux dans l'oreille. Il se moquait gentiment de moi. Il m'appelait Calamity Jane, ou Camille la Dingue, ou Billy the Kid, et il souriait. Il me racontait mon visage méconnaissable. Il me racontait la façon dont j'avais labouré la nuque de ce pauvre mec avec le canon de mon fusil pendant qu'il conduisait. Il me décrivait son lobe d'oreille déchiqueté qui pendouillait dans les tournants. Il imitait le ton de ma voix quand je lui avais ordonné de rabouler un flic et comment j'avais balancé mon arme dans la gueule de Manu en lui disant « Ton cadeau !» Et il riait presque à certains moments. Oui, il riait presque. Je n'ai compris que bien après, que bien des confidences plus tard, quand il a commencé, lui aussi, à me raconter un peu ce qu'avait été sa guerre en solitaire avant moi, avant nous, que cette nuit-là, s'il était si heureux de me voir aussi malheureuse, c'était parce que pendant que je sanglotais dans ses bras non-stop et limite en crise de tétanie, il était, lui, en train de trouver une première bonne raison de ne plus mourir. Les larmes que je pleurais, c'était son carburant pour la suite. Et ses moqueries, c'était juste pour me rassurer. Pour me prouver qu'on pouvait rire de tout et que, d'ailleurs, on allait rire de tout à partir de maintenant puisque... Regarde, Billy. Regarde. Nos vies, si pourries soient-elles, nous étaient enfin rendues dans ce petit lit pourri aussi. Eh, arrête de pleurer, ma puce. Arrête de pleurer. Grâce à toi, on venait d'abattre le plus dur. Grâce à toi, on était sauvés. Oh, et puis si, pleure, va. Pleure. Ça te fera dormir. Pleure, mais n'oublie jamais ça. Bien sûr, nous n'en étions qu'au début de nos peines, tous les deux, bien sûr. Mais quand nous serions au bord de nos tombes, nous pourrions nous retourner et nous dire « C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par la peur et ce sentiment de terreur que m'avaient inspiré des connards de beauf. » En vrai, ils ne disaient que des chutes, mais ces chutes disaient ça. Sans la gentillesse de Franck, quand nous avions révisé notre scène ensemble, sans l'enfance de Billy Holiday qu'il m'avait racontée en regardant ailleurs, bien au-delà de mon appui-tête, et sans ces cartes postales minuscules envoyées chez Claudine pendant mes années de couvent, je n'aurais jamais eu le réflexe de devenir dingue. Et sans ma dinguerie, il n'aurait pas survécu non plus. Voilà, petite étoile. Et maintenant, je te le demande, est-il utile pour moi d'aller plus loin? Est-ce que cette dernière phrase n'est pas trop classe? Et nous servirait tout à fait bien de laisser passer pour la suite? Non? Pourquoi non? Tu veux que je raconte aussi comment c'est moi qui nous ai mis dans cette merde pour bien tout soupeser avant de donner ton verdict? Ok, ok, j'enchaîne. Quand j'ai été trop épuisée pour avoir encore la force de pleurer, je me suis endormie. Et juste au moment de m'endormir, je lui ai fait promettre de ne plus jamais m'abandonner. Parce que je faisais trop de conneries sans lui. Trop, trop de conneries. Il a ri encore une fois, et un peu bizarrement pour se cacher derrière, et il a ajouté comme ça dans son rire à la con. « Voilà, tout ce que tu voudras. Je tiens ma peau, moi. » Puis, tout bas, et dans le pli de son coude, « Oh, Billy, je l'avais oublié. » Eh, la starounette, pas mal la saison 2, non? Du cul, de l'action, de l'amour, y a tout là. Après, tu vas voir, c'est moins funky. Après, c'est deux jeunes dans la débrouille. Rien de très original. Surtout que je ne vais pas pouvoir m'éterniser vu que le ciel commence à pâlir tout là-bas. Tout là-bas, ce doit être l'Est, j'imagine. Oui, il faut que je me dépêche de te raconter la fin du film avant que la lumière se rallume. Chapitre 17. Le lendemain matin, nous avons pris le train pour Paris. Dans ce train, Franck m'a raconté où il en était de sa vie. Pour faire plaisir à son père, il s'était inscrit en fac de droit et vivait en colocation avec un de ses cousins, dans un petit appartement en banlieue où les loyers étaient moins chers. Il n'aimait ni le droit, ni son cousin, et encore moins la banlieue. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Il m'a répondu que son rêve était de s'inscrire à un stage qui lui permettrait de participer à un concours pour entrer dans une super école de joaillerie-bijouterie. « Tu veux être bijoutier ?» je lui ai demandé. « Tu veux vendre des colliers, des montres et tout ça ?»« Non, pas en vendre, en créer. » Il a allumé son ordinateur et il m'a montré ses dessins. C'était super beau. C'était comme s'il avait soulevé le couvercle plein de sable d'un vieux coffre. C'était comme un trésor. Je lui ai demandé pourquoi il ne faisait pas ce qu'il aimait plutôt que d'obéir à son père. Il m'a répondu qu'il n'avait jamais fait ce qu'il aimait de toute sa vie et qu'il avait toujours obéi à son père. Je lui ai demandé pourquoi. Il a fait celui qui était occupé avec ses fenêtres à refermer. Au bout d'un moment, il m'a répondu que c'était parce qu'il avait peur. Peur de quoi? Il ne savait pas. Peur de le décevoir encore une fois et de faire reporter cette déception sur sa mère. Peur d'enfoncer sa mère sous terre encore un peu plus bas. Je n'ai rien répondu. Dès que ça touche le domaine des parents, je n'ai plus de ressources. Alors il a rangé ses rêves et nous avons continué notre trajet en silence. Quand nous sommes arrivés à Paris, il m'a proposé de déposer nos sacs à la consigne et de faire un peu de tourisme avant d'aller chez lui, enfin, chez son cousin. Nous avons refait plus ou moins le même circuit que celui de notre sortie de classe 4 ans plus tôt. 4 ans. Qu'est-ce que j'avais fait, moi, en 4 ans? Rien. Tailler des pipes et trier des patates. J'étais décalquée de tristesse. Ce n'était plus du tout comme la dernière fois. C'était l'hiver. Il faisait froid, la Seine ne dansait plus, la passerelle était déserte, et les cadenas avaient tous été coupés et jetés à la poubelle. Les gens ne pique-niquaient plus dans les jardins en tournant leur visage vers le soleil. Ils ne jacassaient plus en terrasse en buvant des verres de Perrier. Ils marchaient toujours aussi vite, mais ils ne souriaient plus. Ils faisaient tous la gueule. Nous avons bu un café, un court, qui coûtait 3,20 €. 3,20 €. Mais comment c'était possible? Moi aussi j'avais peur. Je me demandais si Manu avait été obligé d'aller aux urgences. Et s'il penserait à vider la machine avant que le linge sente le moisi. C'est tout juste si je ne cherchais pas une cabine téléphonique du regard pour lui laisser un message. C'était horrible. Le cousin de Franck avait beau venir d'une famille noble avec un nom en plusieurs morceaux, un grand nez, des genres de manières et une chemise Lacoste, il m'a accueilli exactement comme les parents de Jason Gibault. Enfin, non, justement. À cause de son éducation qui lui avait si bien appris à embrouiller la politesse et l'hypocrisie, il s'est comporté bien plus mal qu'eux. Il m'a laté dans le dos. Sur le moment, il a fait « Ah, une amie de Franck ! Ah, enchantée ! Ah, bienvenue à la maison !» Mais le soir, quand j'étais dans la salle de bain, je l'ai entendu qu'il lugubrait comme s'il parlait de missiles nucléaires pointés sur la NASA. « Écoute, Franck, ce n'était pas dans le contrat !» J'étais prête à repartir direct. Parce que c'est vrai ça, ça commençait à faire beaucoup là, pour une seule petite Billy, qui n'avait encore jamais pris le train et qui pensait toujours à ses serviettes abandonnées. Où que j'aille, depuis que j'étais née, je dérangeais. Où que j'aille, quoi que je fasse, Quoi que j'essaye, je me trouvais toujours dans le passage, et je prenais des nions pour la peine. Je n'ai pas entendu la réponse de Franck, mais quand il est entré dans la chambre que nous allions partager désormais, il m'avait laissé son petit lit et s'était installé sur un bout de moquette, en me précisant que les Japonais dormaient tous comme ça et qu'ils vivaient bien plus vieux que nous. Oui, quand il est entré et qu'il a vu mon regard, il s'est assis à côté de moi, il a pris ma tête entre ses mains et il m'a dit dans les yeux « Hey, Billie Jean, est-ce que vous me faites confiance ?» Je lui ai fait signe que oui. Et il a ajouté qu'alors je devais continuer et que tout se passerait bien. Il n'a pas dit que c'était que du provisoire, lui aussi, mais bon, il aurait pu. Et parce que je lui faisais confiance et que je n'avais plus de boulot, je me suis remise en mode boniche. Les garçons partaient le matin, je faisais le ménage, je m'occupais du linge et je leur préparais à manger pour le soir. J'adorais cuisiner. J'avais découvert que c'était un truc de nanan pour se faire aimer sans embrouille. J'essayais plein de trucs et j'ai pris 3 kilos rien qu'à tout goûter pour réussir mes assaisonnements. Le Emric, ça l'a bien détendu tout ça. Il est devenu plus cordial avec moi. Pas gentil, cordial. Comme ces gens-là ont sûrement l'habitude de l'être avec leurs domestiques. Mais je m'en foutais. Je me faisais toute petite et j'essayais d'encombrer Franck le moins possible. Et puis, je crois que ça m'allait. Toujours ce truc de défensive qui me hantait. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur de mon ombre quand je me retournais trop vite ou quand j'entendais des pas dans mon dos. Je savourais. L'après-midi, je longeais les arrêts de bus pour ne pas me perdre en cours de route et j'allais traîner dans un grand centre commercial de l'autre côté de l'autoroute. Je glandais. Je me la jouais bourgeoise difficile qui a la CB de son mec, mais qui hésite encore. Et j'embêtais les vendeuses qui s'embêtaient aussi. Certaines commençaient à me détester et d'autres me racontaient leur vie pour compenser. Je n'achetais jamais rien, mais une fois, je suis allée chez le coiffeur. La fille qui m'a fait mon shampoing m'a demandé si je voulais un soin encore en plus. J'étais sur le point de dire non, et puis j'ai hoché la tête. Même si personne ne le savait, c'était quand même le jour de mon anniversaire après tout. Ensuite, il y a eu Noël et le jour de l'an, et je suis restée toute seule aussi. J'avais juré à Franck que je m'étais faite copine avec une des caissières du Franprix. Mais si, tu sais, la blonde qui râle tout le temps, et qu'elle m'avait invitée parce qu'elle était divorcée, et qu'elle voulait de la compagnie pour ses gamins. Comme j'ai bien mis le ton et que j'ai même acheté des jouets, il m'a cru et il est parti rassuré. C'était mon cadeau. De toute façon, je m'en foutais. La magie de Noël ? Alors, comment dire ? La seule chose qui commençait à me tracasser, c'était la bibine. Parce qu'à force d'être seule, j'avais commencé à téter moi aussi. L'ennui, l'isolement, le dépaysement, le prétexte que tout ce travail domestique me donnait soif et méritait salaire, je buvais des bières. J'allais à l'épicerie turque en bas de chez nous et j'achetais des canettes de 33 centilitres. Puis de 50. Puis un pack. Comme les sous-lots. Comme les SDF. Comme ma belle-mère. C'était triste. Tellement, tellement triste. Parce que j'étais lucide. Je me voyais. Ouais, je me voyais faire. À chaque fois que je tirais sur la languette, pshh, je le voyais. Ce bout de moi qui disparaissait. J'avais beau me dire ce que nous nous disons tous, que c'était juste de la bière, que c'était juste pour me désaltérer, que demain je diminuais les doses, que demain j'arrête, que de toute façon j'arrête quand je veux, et tout ça. Je savais exactement ce qui était en train de se passer. Exactement. Vu que c'était ma bonne éducation à moi. À la gorge et près, je le reconnaissais, ce naufrage en route, cette hérédité de merde. Ma tête, mes bras, mes jambes, mon cœur, mes nerfs, tout ce corps qu'on m'avait refilé en tissu éponge. Et qu'est-ce que ça fait, l'alcool, à une petite rurale désœuvrée et perdue au milieu des voitures ? Ça la ramène à ses origines. Ça la fait de nouveau piquer dans les magasins du centre commercial pour se payer ses degrés sans attaquer l'argent du ménage. Ça la fait remarquer des vigiles et des mecs de la sécurité. Ça la force à faire sa pouffe à deux balles pour qu'elle ne lui cherche pas d'embrouille. Ça la force à faire sa pouffe à deux balles et plus, pour qu'il ne lui cherche pas d'embrouille et qu'il l'a à la bonne. Ça lui fait une réputation. Ça la fait traîner avec ses cow-boys de supermarché dans leurs uniformes de synthèse, qui sont convaincus d'avoir un petit pouvoir entre les mains, et donc un peu plus bas. Ça lui fait des amis. Des genres d'amis. Des garçons qui sont plus chaleureux avec elle que les deux qu'elle nourrit tous les soirs, qui ne lèvent jamais le nez de leur bouquin. Qui lui font oublier la tronche de Frank Muller, qui s'était remis en mode caisson tellement il n'aimait pas ce qu'il étudiait, pour obéir à un père qu'il aimait encore moins. Qui la distrayait d'être toujours la moins intelligente à table. Et puis, ça l'a fait se rhabiller plus court. Beaucoup plus court. Et plus voyant. Bref, ça nous la remettait en pute. Un après-midi que je sortais voir mes nouveaux amis, j'ai croisé Franck dans les escaliers. Merde, j'avais du mal à comprendre son nouvel emploi du temps. J'avais une jupe au ras de la moule, des bottes chourées de deux pointures différentes, la faute aux antivols, et mon faux sac Vuitton que j'ai hissé direct comme une sorte de bouclier entre nous deux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il n'a rien dit de méchant pourtant. Au contraire. Et alors la petite Bill? Il fait froid dehors, tu sais. Tu ne devrais pas sortir comme ça, tu vas attraper la mort. Je lui ai répondu un truc idiot pour me dépatouiller de sa gentillesse qui tombait si mal. Mais quelques heures plus tard, alors que j'étais enfermée avec un vigile en pause dans un local à poubelle à me faire limer debout contre des rouleaux d'essuie-tout, la douceur de sa voix a résonné avec le reste. Et j'ai mangé ma misère. Le mec, il était gentil. On s'amusait, le problème n'était pas là. C'était juste que je ne pouvais pas repartir dans l'autre sens. Je ne pouvais pas. Je savais trop bien où ça menait. Surtout vers la fin. C'est dans ces cas-là qu'une maman, ça doit être bien. Une maman méchante qui te fait les gros yeux. Ou une gentille qui t'aide à ramasser les rouleaux d'essuie-tout et les balais avant de te pousser vers la sortie. C'était ce que j'étais en train de penser sur le chemin du retour. Qu'il fallait que je sois ma propre mère. Au moins pour une journée dans toute ma vie. Que je fasse pour moi ce que j'aurais fait si j'avais été ma fille. Même chiante. Même pleureuse. Même si Michael m'avait lâchée entre-temps. Allez, je pouvais bien essayer quand même. J'avais fait des trucs tellement plus durs. Je marchais tête baissée. Je scritchais les trottoirs avec mes talons pointus. Je me faisais la mère et la fille à tour de rôle en m'énervant toute seule. J'étais saoulée. J'étais mauvaise. J'étais grossière en interne. J'avais pas l'habitude de l'autorité. Et putain, qu'est-ce qu'elle venait me faire la morale maintenant, celle-ci? Après tout ce qu'elle m'avait imposé comme souffrance. Tous ces chatons en miettes que j'avais dû enterrer en secret. Tous ces cadeaux des fêtes des mères que j'avais été obligée de rater tellement ça m'aurait détruite d'offrir quelque chose de joli à ma belle-mère. Toutes ces maîtresses qui avaient cru pendant des années que j'avais deux mains gauches et qui m'avaient regardée comme une demeurée. Toutes ces connes qui avaient confondu ma tendresse et ma pauvreté. Tous ces chagrins, tous ces petits chagrins à la queue leu-leu. Merde, c'était trop facile de venir m'expliquer la vie aujourd'hui. Dégage, souillon. Dégage. Ça, tu sais faire. Je fronçais les sourcils et je me jetais des regards de vipère dans les vitrines. Je me disais non, non, non. Et si, si, si. Non. Si, non. Si je ruais ainsi dans mes brancards, ce n'était pas pour faire mon ado rebelle. C'était parce que ce que je me demandais là, c'était trop dur pour moi. Beaucoup, beaucoup trop dur. Je voulais bien tout le reste, mais pas ça. Pas ça. J'avais prouvé que j'étais capable de prendre le risque d'aller en tôle pour Franck. Mais ce que Madame Pluche exigeait encore de moi aujourd'hui, c'était pire que la prison comme danger. C'était pire que tout. Parce que je n'avais et je n'aurais jamais que ça au monde, entre le quart monde et moi. C'était mon seul rempart, ma seule sécurité. Je ne voulais pas y toucher. Jamais. Je voulais le conserver intact jusqu'à ma mort, pour être sûre et certaine de ne jamais repiquer aux humiliations des cheveux qui grattent et des plis de peau qui commencent à sentir le hamster mort. Toi, l'étoile, tu ne peux pas comprendre. Tu dois penser que j'invente des phrases à grandes emmanchures, pour faire genre comme dans un livre, que je me la joue Camille, toute seule et dépecée face au monde entier. Personne ne peut comprendre. Personne. Y a que moi qui peux. La Billy de son cimetière à petit chat. Donc je t'emmerde. Je vous emmerde tous. C'est niet. Jamais je ne toucherai à mon assurance-vie.